Par respect pour nos tipeurs, cette émission sera exceptionnellement sans sketch d'introduction. Nous remercions tout de même Carotte, Tot, Chevaune, El Pouillou, Stéphane et Warloff de nous aider grandement en nous donnant des sous sur Tipeee. Faites comme eux, c'est des gens vraiment très très bien. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel, qui est en train d'improviser une intro parce qu'il sait pas vraiment ce qu'il va dire et que franchement c'est la galère parce qu'il a pas rien préparé et qu'il est à la bourre. Les gens, je suis Wanei Pied, je suis là pour vous accueillir pour un podcast exceptionnel. Nous allons parler de bande dessinée exceptionnelle. Et pour ce faire, je suis en compagnie de personnes exceptionnelles avec Jérôme. Bonjour Jérôme.
Salut, salut, il y a un exceptionnel de trop dans ton intro. Vous devinerez lequel.
Et Thio. Salut Thio.
Voilà.
Ouais, c'est... Bon. Au programme de cette émission.
En fait, l'intro comme ça, tu l'avais pas déjà faite une fois déjà ?
C'est possible.
Je crois que c'est une
mais
seule,
c'était pas exactement la même. Ouais, des fois. Franchement, si vous trouvez des redites, si vous êtes capable de me dire dans quel épisode j'ai fait deux fois la même intro.
Ouais, non, ça c'est bon, les pauvres.
On va faire gagner des BD. On va faire gagner des BD. Il n'y a pas de problème. Voilà. On a des BD pourris qu'on a reçus en SP, on peut les faire gagner.
Oh, qu'il est gentil ce Jérôme. Qu'il est sympathique. Au programme de cette émission, nous n'allons pas faire de online parce que je n'ai pas fait mes devoirs. Comme je l'ai dit, je suis à la bourre. En fait, si j'ai trouvé plein de super sujets de discussion pour du online, mais j'ai pas eu le temps de les lire, donc j'attendrai de vous en parler quand je saurai de quoi je vais parler. Ce serait quand même un peu plus intelligent. Mais nous allons avoir des chroniques. Un nouveau Mickey chez Glénat, Mickey à travers les siècles. L'écorce des choses. Les tomes 1 et 4 de Conan. Le premier par Morvan et Alary, le deuxième par Robin Recht. Le dernier, Lucky Luke, un cow-boy à Paris. Les tomes 1 et 2 des Faucheurs de Vent. C'est ça, c'est les Faucheurs de Vent. Ouais, j'ai mis un S exprès. Et les tomes 1 et 2 de 2 ans de vacances. On enchaînera avec Des Express, où nous parlerons, enfin surtout mes deux comparses, nous parlerons de Promise et Jim Hawkins. Jérôme, tu es prêt? Tu as bien noté que toutes les croix qui sont en gras sous ton nom, c'est les pitchs que tu dois faire.
Alors, je viens de le noter maintenant. Hein.
Voilà, ouais, là, je savais. Attends, regarde, tu étais pressé qu'on commence. Voilà, tu l'es moins maintenant. Hein. Ben, je crois qu'on peut tout de suite démarrer les chroniques avec Mickey à travers les siècles.
Mickey à travers les siècles, donc c'est chez Glénat, c'est fait par Petrucci et Daps. On va suivre donc une aventure de Mickey où justement, ben, comme le nom, le titre l'indique et la couverture, on va avoir un Mickey qui va se balader dans toutes les époques différentes grâce à une machine qui lui permet de voyager dans le temps. Bon, il va voyager parce que forcément il y a eu un petit souci. Voilà, bon, je pense que je n'irai pas plus loin sur le pitch. Un album qui graphiquement est très joli. Moi, j'ai beaucoup aimé le dessin. On n'a pas le côté colorisé qui est trop.
C'est Daps, oui, au dessin.
Qui est pas flashy.
Les couleurs sont de Bruno Tati.
Et qui est assez un peu une sorte de pastel qui est vraiment voilà, qui est très classe, très très classe au niveau du dessin. Un aspect un peu vieilli.
C'est le papier aussi, un beau papier, c'est un bel album. Voilà, qui fait que ça passe côté flashy qui apporte le papier glacé en général.
Voilà. Très, très. Ouais. Au top. Vraiment au top. Au niveau de l'histoire. Voilà. C'est très joli, mais l'histoire vraiment ne m'a pas emballé un brin. J'ai l'impression qu'il se passe. C'est une suite d'action. J'ai l'impression, je suis désolé, de regarder une sorte de Benny Hill où il y a le petit vieux qui est en train de courir partout et où il y a la meute de gens qui le suit. C'est un peu ça en fait qui arrive, je trouve, à Mickey, c'est qu'on a Mickey qui se balade et une meute de gens qui le suit dans toutes les époques. C'était cool quand j'avais 8 ans et je regardais Benny Hill, mais en fait là j'ai trouvé ça graphiquement splendide, mais au niveau de l'histoire j'ai trouvé ça super creux, quoi. Voilà, désolé.
Tu sais que dans Béni, il y a 8 ans, il y avait des nanas avec des seins nus.
Ouais, tu sais que dans le couleur au cochon aussi, le couleur au chaud, il y avait aussi des trucs.
Absolument.
Il y avait l'instant strip et tout. Et à l'époque, on avait 6 ans et je crois que ça devait passer de. Il semble dimanche après-midi à 18h sur une grande chaîne.
Je crois semaine. Que le strip c'était à 20h.
Mais bon, on s'égare.
Non, alors pas mieux. Voilà, moi ça m'est tombé des mains.
Carrément. Même le dessin, t'as pas.
La mise en couleur m'a beaucoup plu. Voilà. Suivant.
Ah ouais, c'est vraiment une critique laconique. donc bah, j'enchaîne, hein. Heureusement, je savais ce que j'allais dire. Pour moi, on est vraiment dans un Mickey à l'italienne, avec ce trait ultra dynamique, ces visages un peu déformés qu'on peut avoir dans Mickey, les oreilles qui sont pas toujours parfaitement rondes. Vraiment un dessin très efficace de cette école italienne hein, qui a sorti des tonnes de bandes dessinées Disney. Au niveau du scénario, ça m'a fait penser à Dingo à travers les siècles. Alors Dingo à travers les siècles, c'était une vieille série qui passait dans les Picsou géants, je crois, je sais plus lesquels.
Quelle mémoire.
Où on retrouvait un peu ce genre d'aventure où Dingo se retrouvait à travers les siècles. Je crois que c'était dès qu'il prenait un coup sur la tête aussi. On est vraiment dans le même genre d'idée. Et qui, moi, m'impressionnait quand j'étais gamin par une mise en page qui sortait du gaufrier. C'est-à-dire que c'était les décors qui faisaient les contours des cases. C'était quelque chose qui était assez exceptionnel graphiquement. C'est dingue, j'aimerais bien les retrouver. Je sais pas si c'est prévu que ce soit réédité. Peut-être que ça me ferait moins rire maintenant, mais j'adorais ça quand j'étais gamin. Surtout parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose au niveau de la mise en scène et de la narration que je trouvais virtuose et que j'avais jamais vu. On est vraiment dans cet hommage-là, et puis on est aussi dans l'hommage. Bah, tu parlais de Benny Hill, mais ouais, mais c'est ça, c'est le slapstick, quoi. C'est le Mickey des débuts où il est poursuivi, il attaque le gars, il court non-stop. C'est ces choses d'animation qu'il y avait dans les animations qui sont classiques. Maintenant, effectivement, en dehors de l'hommage, ça n'apporte pas grand-chose. Ça reste quelque chose d'agréable à lire, qui plaira sans doute à des gamins. Je pense que pour le coup, ils sont vraiment revenus aussi au Mickey pour enfants. Même si, est-ce que l'objectif de cette collection, c'est de faire du Mickey pour enfants? Est-ce que c'est de faire du Mickey pour adultes comme les auteurs qui ont travaillé dessus? C'est toujours un peu difficile. Ça reste, en tout cas, des très très belles éditions. Glénat fait de très beaux bouquins dans cette collection. Elle est magnifique. Et pour un complétiste qui aime le personnage, ça peut valoir le coup. Mais j'irai pas plus loin que ça, c'est pas non plus. Voilà. C'est peut-être, oui, le Mickey qui est le moins convaincu de la série. Pas que ce soit mauvais, mais ça apporte pas grand chose au personnage.
Alors, peut-être un élément de réponse à la question que tu viens de poser. Pour moi, c'est clairement une collection d'hommages. Pour moi, c'est pas des Mickey qui sont faits pour les enfants. On a encore les Super Picsou géants qui sont vendus en librairie. Et alors que là, donc ils sont vendus 5 ou 6 euros, là on est sur du bel ouvrage, on est sur, par contre, très belle reliure toilée, avec du vernis sélectif, enfin, on est sur du bel ouvrage.
Et du brillant.
Oui, c'est vernis sélectif.
Oui, mais il y a du brillant aussi.
D'accord, ok. Et oui, c'est vrai, il a raison, c'est vrai, il y a du
brillant. Ah, tu vois, tu te moques. Tu aimais 10 ans comme ça.
Non, mais on est vraiment sur du bel ouvrage. Donc, c'est vrai que je pense que c'est vraiment un hommage. C'est pour les nostalgiques, c'est tout ce qu'on veut. Mais est-ce que c'est le type de bouquin que tu achètes à ton gamin quand tu es sur une aire d'autoroute en vacances? J'en suis pas convaincu. Alors que tu achètes facilement un Super Picsou géant. En plus, il y en a pour 250 pages. Là, on est sur du 48, j'imagine. Non, un peu plus, pardon, excusez-moi, je suis encore médisant. On est sur du 60 planches. Voilà, maintenant, ma fille l'a lu, elle a aimé. Donc, c'est peut-être le public.
Voilà, c'est pour les enfants, quoi. Enfin, moi, j'ai aimé par cette nostalgie, hein, mais je préférais voir rééditer les dingos dont j'ai peut-être un souvenir totalement embelli, hein, mais que j'avais adoré. Vous les aviez lus, vous, ces dingos?
Non, parce que, tu vois, par exemple, La jeunesse de Picsou, qui était donc moi que j'avais lu à l'époque dans les Super Picsou,
ouais.
J'en avais un super souvenir et quand je les ai relus, j'ai toujours eu la banane quoi. Je me suis ça fait une Madeleine de Proust certes, mais j'ai pas trouvé que ça avait vieilli. Je me suis régalé.
Bah moi, les dingos, pour moi, ça remonte à plus vieux encore que la jeunesse de Picsou, tu vois. Donc, c'est vraiment un souvenir encore plus lointain. Donc, tu sais, quand tu regardes Capitaine Flamme maintenant, tu te dis, ah, c'était trop bien fait!
Non, non, voilà. Je peux pas dire ça.
Voilà, tu peux plus. C'est mort.
Non, l'animation était moche, quoi.
Oui, on passe à la suite.
L'écorce des choses.
L'écorce des choses par Cécile Bidot chez Warum. L'écorce des choses est un livre qui je crois qu'il y avait eu un prix hein,
sur la petite
elle est dedans. Parce qu'il était en sélection en jeunesse Angoulême en 2018, donc l'an dernier. Parce qu'on est nous à la bourre, hein, sur les trucs d'Angoulême, rassurez-vous, on vous en parlera rarement avant, sauf la Brigade des Cauchemars. Mais bon, c'est, voilà.
Enfin, sauf que là, on a quand même fait un carton plein quand même sur Angoulême.
Ouais,
On a eu pas mal de trucs qu'on avait chroniqués qui ont été.
Ouais, ouais, c'est vrai. Et pourtant, on chronique pas tant de choses que ça. Bref, on va suivre l'histoire d'une petite fille qui est sourde. Et on va voir comment est-ce qu'elle perçoit son environnement, comment elle s'y adapte, et comment est-ce qu'on vit sa vie quand on a un enfant sourd, qu'on apprend à communiquer. Voilà, c'est vraiment une histoire très simple. De quotidien, de personne qui a des difficultés, mais qui a raconté, je trouve, tout en délicatesse, avec un dessin de Cécile Bidot que je trouve superbe. C'est fin, il y a un usage des couleurs légers, il y a un peu de texte, mais très peu, on est quasiment sur une BD muette. Hein. On a un travail graphique sur le son et sa propagation, enfin l'onde sonore, sur les gestes qu'on utilise pour se faire comprendre. Et moi, qui ai toujours trouvé que la BD muette était quelque chose d'un exercice très difficile, parce que ça demande de réussir, sans faire trop de cases, à exprimer quelque chose, j'ai trouvé qu'ici, c'était très réussi, d'autant que bah, le fond rejoignait la forme. Et que, bah, voilà, c'était pour moi vraiment une histoire que j'ai trouvée très touchante, très jolie, un très beau livre, et qui sensibilise un peu bah, à ces problématiques auxquelles on ne pense pas forcément. Messieurs, Jérôme.
Alors, moi, ça a été une vraie surprise, en fait, puisque quand je l'ai eu en main, comme tout le monde, je veux dire, je feuillette un peu rapidement, bon, une BD muette, voilà, sans plus, quoi. Je lirai ça plus tard. Finalement, j'ai beaucoup aimé cet album. J'en ai fait d'ailleurs une très bonne critique sur Actua BD. Autopromo. Ouais. Et alors, juste un petit contexte historique. Ça se passe dans les années 70. Dans les années 70, on n'apprend pas aux enfants le langage des signes. On leur apprend à lire sur les lèvres. Sauf que c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, en fait, que le langage des signes. À lire sur les lèvres. Et en fait, il y a des générations d'enfants qui ont été frustrés dans leur relation avec leur entourage par la problématique de la lecture sur les lèvres et de l'absence d'autres moyens de communication. En fait, c'était un moyen de cacher son handicap, pour être très clair. Donc du coup, là, la petite fille ne connaît pas le langage des signes, on ne lui a jamais appris. Et elle essaye de faire ce qu'elle peut pour communiquer avec son entourage comme elle le peut, et avec bien entendu son lot d'incompréhension et son lot de colère de sa part, de à la fois ne pas réussir à se faire comprendre et à la fois ne pas réussir à comprendre autrui. Donc voilà, je suis intimement convaincu que l'apprentissage du langage des signes a fait beaucoup de bien par rapport à cette situation-là.
Pio. Ça te laisse muet.
Ça me laisse sans voix. Voilà, c'est bon, je l'ai faite.
On est obligé. On est désolé.
Je m'attendais à rien en prenant le bouquin. Je l'avais jamais feuilleté, jamais vu, et bah, une BD muette qui fonctionne vraiment super, super bien. Toutes les phases d'émotion de la petite fille sont vraiment très bien retranscrites. Comme tu dis, il y a tout ça, ces moments de frustration où elle n'arrive pas à se faire comprendre, les moments où elle ne comprend pas du coup c'est son entourage parce qu'elle ne les entend pas. Voilà, Il y a une fluidité dans le dans la narration, même sans texte, qui est vraiment très bien réalisée. Donc moi j'y serais allé du petit plus, tu vois.
Voilà, coup de cœur, genre
voilà. Ouais. Mais après je veux pas non plus imposer, parce que bon, en même temps, comme tu es la mauvaise foi incarnée, peut-être que tu vas dire que finalement c'était pourri. Mais
il essaye de me prendre un revers pour me forcer à dire que c'est un coup de cœur. Jérôme,
alors,
tu suivrais ?
Cécile Bideau a fait un superbe travail, vraiment. Un travail plein de sensibilité, plein de tendresse, plein d'empathie. Voilà, je crois que le terme qui va avec cet album, c'est l'empathie.
Je vais réagir, parce qu'il y a Tizak qui dit que le souci, justement, c'est que le langage des signes, c'est qu'il a tendance à induire de la communication qu'entre personnes qui sont capables de signer. C'est vrai, mais souvent, en fait, quand tu as, par exemple, dans ta famille, quelqu'un qui est sourd-muet, j'ai rencontré une personne qui nous a fait une formation là-dessus, elle l'entend parfaitement, ce sont ses parents qui sont sourds. Et du coup, en fait, elle a appris le langage des signes de toute petite, parce que c'était le seul moyen qu'elle pouvait avoir de communiquer avec ses parents. Alors, ses parents savaient lire sur les lèvres, mais elle a appris à signer avec ses parents. Donc, du coup... Et c'est pas forcément le truc. Et il a commencé à le faire avec ses élèves, justement dans son collège. Et beaucoup d'élèves ont trouvé que c'était une façon très agréable d'induire une discussion que de signer plutôt que de se parler. Enfin voilà, c'est juste pour répondre à Tizak sur le forum. Désolé.
Non, mais on peut aussi développer le fait qu'il y a des pédiatres qui essaye de promouvoir le développement du langage des signes pour les bébés, pour communiquer avec les bébés, comme quoi les bébés seraient capables d'exprimer un certain nombre de choses par le langage des signes. Là, je laisse les spécialistes développer la question. Mais voilà, il y a des expérimentations.
Pour ce qui est du coup de cœur.
Bref, pour ce qui est du coup de cœur, moi, je suivrai.
Eh bien, je ne vais pas faire le rabat-joie, messieurs.
Mauvaise foi, n'est pas là ce soir.
Voilà, je fais aussi un coup de cœur. Parce que oui, c'est un album que j'ai trouvé superbe. J'ai vraiment adoré. Et donc, l'écorce des choses a un coup de cœur à 3, ce qui est plutôt pas mal. Et Tizak n'est pas là pour
à
nous
contredire. À 4 avec Evelyne, elle dit à 4.
Voilà, avec Evelyne, ouais, mais elle n'avait qu'à parler dans l'émission pour nous dire. donc là, tu n'as pas le droit de mettre le coup de cœur.
Tizak l'aurait pas mis, tu vois.
Tizak l'aurait pas mis.
Et comme il n'est pas là, il n'a pas le droit.
Il n'est pas là, dommage. On passe à la suite. Alors on va parler de deux Conan, le numéro 1 et le numéro 4, qui se répondent pas mal, je trouve. C'est assez intéressant. Donc Jérôme, je t'en prie, fais le pitch de chacun des tomes. On arrivera un petit peu après sur la critique.
Oui, donc alors vous avez suivi, parce que vous suivez l'actualité BD forcément, et puis on n'a pas pu passer à côté avec le barouf qu'a fait Glénat autour de la réédition, donc des nouvelles de Robert et Howard de Conan le Cimmérien, et pas Conan le Barbare. Attention.
Ouais. Dans ces deux tomes-là, je t'avoue que
non,
le Barbare collait pas mal.
Le Cimmérien. D'ailleurs, il n'y a aucune des 32 nouvelles de Conan qui ne se passe en Cimmérie, d'ailleurs.
Oui, oui.
Mais il a quitté sa...
Voilà. Alors qu'il a souvent un comportement barbare. Donc, quelque part, le titre était mal choisi.
Oui, mais le Barbare n'est pas forcément...
Mais parce que Robert et Howard a intitulé ses nouvelles, au Conan le Cimmérien. Et c'est Conan le Barbare, c'est le film avec Jordi.
Mais je sais bien.
Oui, mais alors... C'est quand même souvent le nom commun qui est donné à Conan.
Certes.
Le Barbare. Bon, parce que justement, les barbares sont souvent plus polis que les gens civilisés. Parce qu'ils savent que si tu n'es pas poli, eh bien, la personne en face de toi, elle peut t'éclater la tête.
Exactement.
Alors que les gens civilisés, bah, ils se permettent tout, parce que forcément, ton voisin ne va pas t'éclater la tête.
C'est ça, c'est la civilisation.
Donc du coup, on va avancer. Du coup, Glénat a proposé à soit des binômes, soit des solos, d'adapter les nouvelles de Ward. Leur objectif étant d'adapter l'intégralité.
D'ailleurs, mea culpa, j'ai dit que c'était des gens qui n'avaient jamais travaillé ensemble. Je ne sais pas d'où je tirais cette information, ce n'est pas le cas.
Bah non, parce que
j'avais dit un truc bidon sur la précédente émission.
Voilà, ouais. Donc sur la précédente émission, on avait effectivement parlé du Colosse Noir.
Oui.
Et donc là, la Reine de la Côte Noire, qui en fait est le tome 1 de la série, et
la fille du géant du gel.
Dans ton micro, s'il te plaît, Jérôme.
La fille du géant du gel. Donc, alors, il faut préciser que ce sont les auteurs qui choisissent la nouvelle qu'ils veulent chroniquer, qu'ils veulent adapter, pardon. Et alors, Jean-David Morvan et Pierre Allary ont décidé de chroniquer la Reine de la Côte Noire. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en fonction des auteurs, il y en a qui connaissent très très bien Love the Ward, il y en a qui la découvrent au moment de d'adapter les albums. Là, ils ont choisi ce titre-là parce que c'est l'histoire d'amour de Conan. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a qu'une. C'est avec la reine de la Côte Noire. Donc ça sort un petit peu du Conan bourrin qui se tape des prostituées. Donc là, il est récupéré par une pirate, une capitaine pirate. Parce que bon, au début, voilà, il est en procès, puis ça le saoule un petit peu. Donc il va trancher la tête du juge, donc il s'enfuit par la fenêtre. Il plonge dans la mer et il va être recueilli par un navire pirate. Donc navire pirate à la tête duquel se trouve la reine de la Côte Noire. Vous avez suivi, c'est formidable. Et ils vont partir à la recherche d'une cité perdue, maudite, tout ce qu'on veut. Bref,
pour tuer. Du classique.
Voilà, pour tuer un méchant sorcier. Alors, au moins, la scène de cul, elle n'est pas à la fin. C'est pas après avoir tué le méchant
général,
sorcier qui va se faire la
dans le Colosse Noir, c'est ça qui était l'archétypal.
Là non, là comme il tombe amoureux, en fait il se la fait avant, hein, voilà. Et
scène de cul soft, cela dit.
Scène de cul soft. Et ceci dit, je vois bien pourquoi tu dis ça, parce que vous verrez avec la reine du géant du gel. Encore que, et pas la reine d'ailleurs, la fille du géant du gel. Et donc, la seule chose, c'est que vous n'ignorez pas que Conan n'est pas marié, donc vous vous doutez de ce qui va arriver à la reine de la Côte Noire. Voilà, en tout cas, c'est la seule histoire d'amour de Conan, et c'est pour ça qu'ils ont choisi d'adapter cette histoire-là. Maintenant, alors, que dire de l'adaptation ? Moi, je suis assez... j'aime bien, moi, cette série de Conan faite par Glénat, déjà parce que ça permet de redécouvrir un personnage qu'on ne connaît à 99,9% qu'à travers Schwarzy. Et c'est bien de se replonger un petit peu dans les textes de 1932. C'est aussi intéressant de voir différents aspects, différentes attitudes de Conan. En fait, Conan, avant d'être un barbare, c'est un survivant. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence entre un barbare et un survivant ? Il pourrait être autre chose, mais en tout cas, c'est un survivant. Il survit à tout et il traverse toutes les épreuves. C'est surtout ça qui le caractérise.
Ce qu'il va aussi avoir, je te coupe, mais il va aussi avoir plusieurs métiers, parce qu'il va être...
C'est ça.
Dans toutes les nouvelles qu'a fait Howard, c'est qu'il a été pirate, il a été voleur, il a été mercenaire, il a été roi.
Il sera même roi, voilà. Et général dans le Colosse Noir. Et puis, c'est une critique de la civilisation. En disant, nous, Cimériens, nous vivons dans la nature sauvage, nous n'avons pas peur, et entre autres de la douleur et de la mort, parce qu'on sait ce que c'est. Vous, dans vos cités, vous avez peur de la mort, vous savez plus ce que c'est, vous avez oublié ce que c'était que la douleur et la mort. Donc vous êtes devenus faibles, et c'est la civilisation qui vous a affaibli. C'est une réflexion très intéressante, et qui est toujours d'actualité. Et aujourd'hui, il y a un grand nombre de maux de notre société qui sont dus au fait qu'effectivement, on a oublié ce que c'était. On a oublié ce que c'est que la mort, la perte des proches. On a oublié qu'il y a un siècle de ça, on avait 10 enfants pour en avoir 4 qui arrivaient à l'âge adulte.
Si tu finissais le pitch pour partir sur le pitch de l'autre, parce que je pense que la critique combinée des deux peut être intéressante.
Okay. Voilà, je termine juste la chronique en disant que chaque album est accompagné d'un petit texte de Patrice Louinet et que celui du tome 1 vaut particulièrement le coup parce que c'est sur le tome 1, donc du coup il en a mis deux fois plus que sur les autres, et Patrice Louinet c'est clairement le spécialiste de Conan en France. Voilà, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas lui il est au-dessus des autres. Ça, c'est très clair, et quand... moi, je le connais pas, hein, mais quand on lit ce qu'il écrit, il touche sa bille, quoi, incontestablement. C'est très, très bien écrit, très intelligent, ce qu'il écrit, et très pertinent. Robin Recht. Alors, Robin Recht, il a fait beaucoup parler de lui avec son adaptation de...
Elric.
Le Nécromancien. Donc, et d'ailleurs, adaptation très remarquée et remarquable. Disons-le, vivement la suite d'ailleurs. Hein, ça fait quelques temps qu'il n'y a pas eu de tome qui est sorti.
J'ai pas lu les premiers.
Moi, j'ai lu les deux premiers tomes et je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un troisième tome qui soit sorti.
Aucune idée.
Donc, quoi qu'il en soit, Robin, si tu nous écoutes, sors la suite parce que voilà, va falloir avancer un peu. Et du coup, on a droit à une préface de Michael Moorcock. l'auteur donc de d'Elric le Nécromancien, en précisant quand même qu'il a adoré l'adaptation de Robin Reich, l'adaptation de ses romans par Robin Reich. Du coup, il a forcément adoré aussi l'adaptation qu'il a faite de Conan, et il dit pas moins que Reich est un des meilleurs artistes de bande dessinée français, un des plus intelligents. Voilà, rien que ça. Donc après ça, je pense que le mec peut se prendre un petit peu le melon. Quoi qu'il en soit, là on est sur graphiquement quelque chose de complètement différent, beaucoup moins classique que le dessin assez convenu quand même hein, de Morvan, moi je trouve.
De Alary.
Là on est sur une mise en couleur beaucoup plus contrastée et en même temps beaucoup plus nuancée. Et surtout sur un dessin qui est quand même, à mon sens, nettement de meilleure qualité, en particulier dans les ancrages. On est sur des ancrages absolument magnifiques. Tout le monde le sait, le noir est une couleur à part entière, mais là, ça prend tout son sens. Alors, du coup, Conan, qu'est-ce qui lui arrive ? Il participe à une bataille en tant que mercenaire, c'est le seul survivant. Il y a une déesse qui assiste à la bataille, la fille du géant du gel. Et qui propose son corps aux survivants de la bataille. Bon, il se trouve que c'est Conan. Pas de bol pour elle, c'est Conan. Donc, elle est à peu près tout le temps à poil, mais de toute façon, elle s'en fout, c'est une déesse, donc même si c'est au milieu des neiges, de la neige, elle n'a jamais froid. Et surtout, elle se nourrit, en fait, de l'esprit de combativité des guerriers, et c'est pour ça qu'elle veut le gars, et c'est pas pour l'attraction sexuelle que peut lui inspirer un mortel, pas du tout, puisque de toute façon elle le précipite dans un gouffre glacé pour qu'il se batte avec ses anciens prétendants, qu'elle a plus ou moins transformé en mort-vivant, on va dire ça comme ça. Donc, et pendant ce temps-là, elle prend un orgasme, hein, pour vous dire. Le problème, c'est que voilà, encore une fois, c'est Conan, donc c'est un survivant, donc il va survivre à ça, et lui, ben Conan, il veut sa récompense. Donc, il veut le cul de la fille du géant du gel. Et il ne l'aura pas. Nananer.
Pourquoi tu racontes la fin?
Parce que j'avais envie de le dire.
Pourquoi tu spoiles comme
parce
ça?
Parce que j'avais envie de le dire.
Non, mais on spoile pas. Dans
parce qu'il y a papa qui arrive, quand même.
Voilà, c'est ça. Non, ceci dit, la fin est très intéressante. La fin est très, très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur un récit symboliste. Donc, on sort d'une simple histoire de fesses et on arrive sur quelque chose qui est de la relation mystique entre le guerrier et le Valhalla, entre le combattant et la divinité, entre les mythes et les légendes et la réalité des hommes du Nord qui passaient la plupart du temps à se battre parce qu'il fallait bien se tenir chaud. Voilà, en tout cas, ce récit symboliste autour de la vie, de la mort, du sexe et du sang. Donc, c'est vraiment intéressant.
Alors moi je vais revenir un peu, tu parlais, tu t'es mis à comparer les styles graphiques, je trouve que c'est pas vraiment comparable hein, entre les deux. Le dessin d'Alary est un dessin très dynamique, très axé action, axé combat, quelque chose de très efficace. Le dessin de Robin Reich est beaucoup plus justement ce que tu disais dans l'illustration, dans l'émotion. C'est une force qui est pas la même et qui ne fonctionne pas pour les mêmes choses. Je pense qu'on aurait difficilement pu inverser les deux dessinateurs, en fait. On aurait eu quelque chose qui aurait pas collé. Robin Reich sur le dessin de La Reine de la Côte Noire, je pense qu'il aurait été à l'étroit dans le récit. Alary sur La Fille du Géant du Gel aurait galéré pour faire ressortir ce côté justement énorme, ce côté grande plaine glacée, très symbolique ce que tu disais. C'est deux styles très différents et qui collent assez bien avec les récits. Par contre, moi, ce que j'ai trouvé intéressant d'un point de vue scénaristique entre les deux, c'est qu'on est sur deux histoires de Conan autour de la relation avec une femme qui est centrale sur le récit et qui n'est pas juste son commanditaire qui va se sauter à la fin ou la prostituée qui va croiser, etc. Donc la relation avec ces femmes-là est centrale sur le récit. Et on est aussi apparemment, en tout cas c'est ce que disent les textes à la fin, sur deux récits qui se situent à des périodes très différentes. La fille du gel est quelque chose de primaire qui vient des débuts de la définition du personnage, de quelque chose où en gros on sent qu'on avait une sorte de brouillon très brut de Conan, et pour le coup l'histoire marche très bien, on est sur des émotions vraiment primaires. On est vraiment sur quelque chose de primaire.
On est sur la puissance sexuelle.
Voilà. Tandis que l'autre bouquin, La Reine de la Côte Noire, on est sur quelque chose qui a été écrit un peu plus tard, et on est sur un personnage qui est beaucoup plus construit et réfléchi, et qui donc va pouvoir avoir une relation avec plus d'empathie, même si le final montre que bon, on ne sait pas trop s'il y avait de l'amour ou pas, on va dire. Plaisir, en tout cas, c'est sûr, qu'il était content de sa relation, mais voilà.
La nouvelle est plus explicite là-dessus.
Oui, et c'est vrai que je trouve ça intéressant de montrer l'évolution de ce personnage, de la chose brute, à la recherche du sang et du sexe, à quelqu'un qui essaie de construire une relation. Dans l'écriture d'Howard, en tout cas, dans cette adaptation, parce que j'ai pas lu Howard, hein, je trouve que ça amène vraiment... cette maturité du personnage qui apparaît au fil du temps. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, parce que c'est deux tomes qui se répondent vachement sur ces thématiques-là et qui vont bien ensemble, en fait. Chacun dans un genre un peu différent. On est vraiment dans le récit d'aventure épique, dans le récit d'aventure à Indiana Jones, hein, dans La Reine de la Côte Noire. On est plus dans la course-poursuite... dans La Fille du Géant du Gel, mais c'est deux récits qui pour moi se répondent vachement bien et qui sont assez efficaces, chacun à leur façon. Thio, on t'a pas entendu encore.
Je dirais que moi j'étais moins emballé par La Reine de la Côte Noire. Peut-être que le dessin m'a moins convenu que toi, tu vois, c'est...
Ouais.
Ah. Moi j'ai trouvé que c'était un peu trop cartoony, en fait, pour coller à mon idée de Conan, voilà.
Ah, c'est parce que t'as pas aimé Conan l'aventurier quand tu étais plus jeune, le dessin animé.
Pardon. Ok, non. En fait, je peux pas l'avoir aimé parce que je sais même pas ce que c'est. Donc.
Tu as de la chance.
Après, comme je disais, au niveau de la nouvelle, t'as quand même, t'es plus proche, c'est plus explicite, on va dire, l'amour que porte Conan justement à la Reine de la Côte Noire dans la nouvelle.
Toi, tu les as lus pour le coup, les.
Et ouais, je me suis tous refait. J'ai déjà dit en livre audio, me suis tous refait, en fait, récemment.
Pardon, tu les as écoutés.
Je les ai écoutés, mais bon, du coup, ça reste quand même comme si tu les avais lus. Le premier tome m'a moins emballé. Comme je te dis, je pense que le graphisme, il joue pour beaucoup.
Le dessin de Robin Recht, il est. Enfin, je veux dire.
J'étais déjà fan de.
Il est fantastique. Je veux dire, là, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est quelque chose de magnifique. C'est pas la même chose, quoi.
C'est pas la même chose. Après, voilà, ce qui est surtout intéressant, c'est que dans Conan, il y a plusieurs nouvelles. Et dans chaque nouvelle, tu vas avoir un côté du personnage qui est traité. Il faut que tu imagines, en fait, quand tu prends une nouvelle de Conan, c'est que tu as Conan qui te raconte une histoire de sa vie. Tu vois, tu es dans un bar avec lui, il va te raconter son histoire. Donc, il va te raconter un moment de sa vie. Et il va te raconter une de ses aventures. Chaque aventure, du coup, va traiter, comme je disais tout à l'heure, un des personnages qu'a joué Conan, quoi. Il n'a pas eu non plus à chaque fois le nom de Conan. Des fois, c'était, je crois que c'était Amra quand il était le pirate. Et tous les versants, on va dire, qui sont utilisés pour Conan, ça va être différentes aventures. Tu vas avoir le moment où il va être un voleur. Dans ce cas-là, tu seras peut-être un peu moins du fight. Ça va être autre chose. Là, comme tu dis, dans la Fille du Géant du Gel, il y a vraiment le côté bestial, le côté brut de Conan, avec quelque chose qui est quand même plus frontal, quoi. C'est pas épique, c'est juste, en fait, une poursuite. Il va chasser, en fait, la Fille du Géant du Gel. Dans La Reine de la Côte Noire, t'as un côté aventure. On va aller chercher le trésor. On va essayer de. C'est autre chose. Et alors, c'est vrai que c'est, même si le premier tome là, de Morvan et Larry m'a moins emballé, je trouve que c'est vraiment très chouette cette collection, parce que du coup, tu as vraiment, en changeant de graphisme chaque fois, en changeant de compteur aussi, on a à chaque fois une ambiance différente et eu un aspect différent de Conan. Donc voilà, moi, la série m'emballe vraiment bien. Et en plus, avec à chaque fin de livre, le petit... le petit livret qui t'explique, qui te remet dans le contexte, c'est vraiment super intéressant.
Donc, bon bouquin, et je crois qu'on est tous d'accord que La fille du géant du gel, que vous appréciez l'histoire ou pas, graphiquement, c'est de la tuerie.
Yes.
Nous allons donc pouvoir passer à la suite.
Et là, c'est du lourd.
Lucky Luke, on repart un peu sur du classique, les gens.
Ah, c'est du classique. Ouais.
Un cow-boy à Paris. Alors qu'il se balade tranquillement dans les plaines de l'Ouest, Lucky Luke croise, j'ai oublié le nom de ce personnage historique, qui a un prénom, un nom italien,
Bartholdi.
Qui est en train de se balader avec la main de la future statue de la liberté pour essayer de retenir des sous pour qu'on puisse finir cette statue de la liberté. Voyant la force, le courage et l'adresse du cow-boy fringant, Bartholdi décide de l'embaucher pour l'accompagner en France, où il pourra escorter la statue, car de méchantes personnes veulent empêcher cette statue d'arriver.
Et oui, parce que sur Liberty Island, il y en a un qui veut construire une
prison. Donc, ça fait longtemps que je n'avais pas lu Lucky Luke. C'est une bande dessinée de HD et Jules, donc, qui ont repris la série, hein, d'après Maurice. Et Goscinny aussi, bien sûr, ne l'oublions pas. Et bah, c'est de la bonne vieille BD à papa. J'avoue, j'ai retrouvé vraiment le côté bonne vieille BD à papa. C'est une série d'anecdotes, de petites scénettes où on voit le personnage qui fait ses affaires, qui arrête les bandits, où on a de l'humour, des références historiques à des faits réels qui sont plutôt bien amenés en général, des jeux de mots. Globalement, ça reste, je trouve, assez fidèle à Lucky Luke. Mais je crois que, comme le disait Murtoff, je suis trop vieux pour ces conneries, quoi. Je trouve que la reprise d'Astérix a mieux réussi, pour le coup, tu vois, sur les derniers que j'ai pu lire. Là, alors que cet album, j'ai cru comprendre qu'il avait une très bonne critique pour un Lucky Luke, je pense qu'il a une très bonne critique parce qu'il est moins mauvais que les autres, que les précédents. Parce qu'il n'est pas mauvais, ça fait le boulot, ça fait son taf. C'est un Lucky Luke sympathique, mais j'ai pas gardé de personnages grandioses dont je vais me souvenir, comme tous les seconds rôles dont on peut se souvenir dans les autres histoires. J'ai rien qui m'a vraiment marqué. J'ai lu un Lucky Luke. Jérôme.
Alors moi, j'ai bien aimé. Voilà, ça s'est dit. Maintenant, vous pouvez m'incendier sur...
Ah non, mais t'as le droit. On disait que t'es la bébé à papa. Tu assumes.
J'assume. j'assume mes goûts éclectiques et pas que mes goûts de BD à papa.
Dans le micro, s'il te plaît.
Moi, j'ai bien aimé. Déjà, je trouve que la reprise de Lucky Luke fonctionne pas mal dans l'ensemble. J'avais beaucoup aimé le premier tome qui était paru au moment de la reprise, qui s'appelait La Belle Province, où en fait, le héros était Jolly Jumper. Il était temps. Et nos cousins outre-Atlantique, les Québécois, et je retrouve un petit peu cette atmosphère. Alors certes, on peut déifier Goscinny autant qu'on veut, et vous avez raison, mais à un moment donné, ça fait 30 ans qu'il est 35 ans qu'il est mort.
Non, mais il n'y a pas de souci là-dessus, mais ça faisait longtemps que j'ai pas lu à Lucky Luke, donc c'est vrai que
voilà, mais comme l'a dit au moment de la remise des prix à Angoulême, c'est Rosensky, non, c'est je sais plus, qui a dit « Nous sommes tous les descendants de Goscinny », certes, pour le prix du scénario. À Angoulême, là, il y a une semaine.
Oui, je sais pas, voilà. J'ai pas eu tous les détails.
Bref, et donc oui, sans doute que les scénaristes sont tous quelque part les descendants de Goscinny, mais bon, en tout cas, voilà, maintenant il faut passer à autre chose.
De Charlier aussi, franchement, il y a du Charlier.
Et moi, j'ai bien aimé celui-là. On retrouve pas mal de jeux de mots assez sympas. Moi, je trouve que les reprises de Lucky Luke sont meilleures que les reprises d'Astérix. Donc, comme quoi, on a des avis assez opposés là-dessus. Ce que j'aime beaucoup...
C'est aussi parce que moi, je préférais Astérix et Lucky Luke aussi à la base. Donc, ça facilite le...
Alors, moi, je suis un grand fan d'Astérix aussi. Hein. Mais après, j'aime beaucoup à la fin des Lucky Luke quand il y a une photo historique. Et c'est pas dans le cas de tous les Lucky Luke. Là, c'est le cas.
Oui, c'est un classique.
Hein. Très, très belle photo historique de la Statue de la Liberté construite dans Paris, puisqu'elle a été fondue à Paris. Hein, je pense que c'est su et connu. Et en fait, ce qui est moins su et connu, c'est qu'avant d'être montée sur Liberty Island, elle a d'abord été montée à Paris à titre d'essai. Et elle a été prise en photo. Moi, je ne savais pas du tout qu'il y avait une photo qui la représentait comme ça, dominant les toits de Paris, en 1884. Donc, voilà, c'est basé là-dessus. Je trouve que voilà, c'est un grand classique. Si on aime Lucky Luke, on aimera celui-là parce que vraiment, il y a tous les poncifs habituels et classiques. Les Jolly Jumper est là, les Dalton sont là, tout le monde est là. Et voilà, rien d'extraordinaire, mais un bon moment.
Thio.
Et comme tu l'as dit, rien d'extraordinaire. Et c'est moi ce qui m'a un peu déçu, c'est que c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas lu de Lucky Luke. J'étais un peu comme pied là-dessus. Mais là, il m'a pas marqué quoi. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé dommage. Tu vois, justement quand j'avais entendu toutes les critiques quand il est sorti, je me suis dit. Bon, ok, là on va le lire. Peut-être que je vais me régaler avec un Lucky Luke comme quand j'étais petit et que je lisais mes grosses intégrales. Et ben non, ça l'a pas fait. Ça a pas fait la petite magie quand j'étais enfant. Alors peut-être que du coup, comme tu dis, j'ai grandi et que ça marche moins bien. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a rien de mauvais dedans. Je peux pas dire c'est le scénario et ça match pas. Il y a plein de petites références qui m'ont fait sourire hein, quand tu as la petite chorale de la. De la prison qui te chante libéré délivré voilà tu mais bon pas follement emballé quoi.
C'est la grande difficulté de la reprise hein, où les scénaristes ont une obligation contractuelle de rester dans la continuité alors qu'on s'attend à ce que un personnage au bout d'un moment évolue. Et c'est ça qui est super casse-gueule. Après j'aimerais pas être à la place des auteurs hein. C'est que les auteurs fassent évoluer leurs personnages, c'est quelque chose qu'on peut admettre. Que les repreneurs le fassent, c'est quelque chose qui n'est pas possible.
Il y a quand même une série qui l'a très bien fait.
Oui, je sais. Il y a la série, j'ai pas lu celui de Bouzard, mais celui de... Mathieu Bonhomme était très très bien, oui. Tu parlais de ça ou les Lucky Luke d'après Maurice
Non, pas mieux. Moi, je parlais de Spirou.
Ah, de Spirou. Ouais, mais Spirou...
Juste... Bien des séries parallèles. Hein,
voilà, c'est pas les séries parallèles. Mais ce qu'ils ont fait avec Lucky Luke aussi, paraît que les deux tomes en série parallèle de Lucky Luke, nous on en a lu un, celui de Mathieu Bonhomme, qui est génial.
Qui est très très bien.
Voilà, celui de Bouzard,
qui a tué Lucky Luke.
Voilà. Paraît que L'homme qui tue à Lucky Luke.
Pardon, L'homme qui tue à Lucky Luke.
Référence à John Ford.
Voilà.
Celui de Bouzard, paraît qu'il est super drôle. C'est bourré de références, c'est de l'humour plus absurde, mais paraît que ça marche super bien.
Oui, non, c'est
mais sur Spirou, je veux dire, on est encore sur un truc encore un peu particulier. Spirou, on est plus proche d'un personnage à l'américaine, qui est une licence qui est refilée à des auteurs. Où on s'attend à ce que les auteurs, quand ils le reprennent, le remettent un peu au goût du jour. Spirou est un personnage qui a toujours évolué avec son époque. Lucky Luke, il ne peut pas évoluer avec notre époque, vu qu'il est comme Astérix, il est coincé dans son époque. Tu vois ? Donc, c'est, je pense, pour les repreneurs, c'est un casse-tête terrible, parce que ce qui serait cool, c'est de demander à H.D. Jules, dites, ça vous dirait de faire un Lucky Luke comme vous voulez, dans une collection parallèle, tu vois, de voir ce qu'ils feraient. Voilà. Mais, pour le coup, je trouve que ce que tu disais, l'exercice, je pense, est réussi, mais il a les limites de ce type d'exercice.
Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas de façon très objective hein, l'histoire, que ça soit d'ailleurs pour les reprises d'Astérix comme pour les reprises de Lucky Luke, le dessin est bluffant.
Oui, oui, non, c'est vraiment...
C'est Maurice, voilà.
Ouais, du Maurice moderne.
Et pour Astérix, ouais, du Maurice moderne, mais c'est vraiment le trait de Maurice, c'est exactement ça. Et c'est Uderzo pour Astérix, c'est quand
oui,
même
non, ils ont réussi à trouver des repreneurs qui savaient se mouler dans le trait de leur modèle. Donc voilà, un cow-boy à Paris. Le dernier, Lucky Luke par HD et Jules chez Lucky Comics. Faucheur de vent. Et là, je vais vous laisser parler pour les prochains albums car je n'ai pas eu le temps de les lire.
Faucheur de vent, donc c'est un bouquin de Thierry Lamy et là, le Cédric.
Fernandez.
Martinez. Non, Fernandez.
Fernandez.
Regarde, c'est écrit en gros sur l'écran de télé derrière toi.
Ouais, mais là, j'ai pas mes lunettes, donc c'est trop petit.
Voilà.
Donc, on va suivre les aventures donc, des premiers aviateurs pendant la Première Guerre mondiale. On est en 1917. On va suivre donc un as de l'aviation qui s'appelle... j'ai que le prénom qui me revient. Alexandre. J'ai plus le nom. Bon, c'est peut-être pas très grave. Qui est donc un as de l'aviation française. Alors, pour être un as, je crois, à l'époque, il fallait juste abattre... Il fallait abattre, je crois, 5 appareils et demi.
En tête, j'avais 8, moi.
Ouais, c'est un nombre qui n'est pas énorme, mais finalement, tu...
Mais devant témoin.
Oui, c'est oui, parce qu'en plus, il faut aussi que les victoires soient validées. Et donc, cet as de l'aviation française a eu un grave accident. Il est défiguré, il porte un masque. C'est un héros... meurtri physiquement et mentalement. Et tout va changer dans son escadrille avec l'arrivée d'un petit jeune, le petit bleu.
À la Top Gun.
Ouais, Louis Lafitte, qui est une tête brûlée, qui lui, en fait, il est là pour la castagne. Quoi.
Et qui est beau gosse.
En plus. Et qui veut, voilà, qui veut être vizir à la place du vizir. Quoi. Donc il veut faire ses preuves, il veut être le boss. Quoi. Il veut devenir un as, lui aussi. Bon, mais forcément, ça va pas super bien se passer entre le vrai as pour l'instant et le jeune loup qui arrive. On va avoir des petites luttes, des petites engueulades, des... Comme tu le dis, à la Top Gun, je crois que c'est un bon résumé, finalement. Sauf que, bon, bah, dans ces avions-là, ils étaient tout seuls, donc il n'y a pas de copilote qui vont mourir en se pétant la gueule dans la verrière, mais... parce qu'il n'y avait pas de verrière à l'époque, aussi. Au niveau du scénario, ce que j'ai trouvé... vraiment intéressant avec ce qu'a fait Thierry Lhermitte, c'est qu'on a et l'histoire de l'aviation et en même temps une autre histoire qui se mêle à l'intérieur avec la rencontre que va faire justement Alexandre avec sa correspondante de guerre. Parce que quand tu es blessé à l'époque, tu as des femmes qui t'écrivent à l'hôpital justement pour te remonter le moral et tout. Et c'est devenu sa correspondante de guerre qu'il va rencontrer par la suite. Et il y a une intrigue qui va se développer à ce niveau-là. Plus l'affrontement avec un as de l'aviation allemande. Alors là, le Stepanich, mais j'ai plus le nom exact en tête.
J'ai oublié aussi, mais bon, peu importe.
Peu importe. En fait, voilà, le mélange des deux, je trouvais ça vraiment très, très fun. Et au niveau du dessin, donc Cédric Fernandez, c'est génial, parce que moi, j'ai adoré regarder en fait, tous les vieux biplans de la Deuxième Guerre mondiale. Quoi. Ils sont super bien dessinés, c'est splendide.
C'est la reproduction.
C'est la reproduction,
voilà. Ouais, c'est le travail d'orfèvre. Un peu comme on peut admirer le travail de... Comment s'appelle-t-il sur les bateaux
c'est, voilà, De Litte.
Voilà, de Litte sur les bateaux.
Yves De Litte.
Yves De Litte sur les bateaux. Oui, bon, enfin, maintenant, j'ai déjà parlé de ce que je pensais du travail d'Yves De Litte, qui fait un très beau travail sur les bateaux, mais Fernandez, sur autre chose que les avions, il s'en sort comment?
Je sais pas, parce que je crois que son présent bouquin, c'était sur Saint-Exupéry.
Non, mais là, vous voyez, il n'y a pas que des avions dedans.
Et c'était très bien. Ses plus belles planches sont quand même les batailles aériennes.
Mais non, mais on voit les personnages, on voit des humains se balader.
Non, mais il y a de la belle planche.
Oui.
Et puis il y a de la planche, waouh.
Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, De Litte, par exemple, j'aime pas du tout sa façon de dessiner les humains, les personnages, etc. Là, est-ce que le travail de Fernandez, justement, en termes graphiques, c'est quelque chose qu'on est proche d'un réalisme? Est-ce qu'il y a un dynamisme un peu plus moderne? Est-ce qu'on est sur un dessin réaliste à l'ancienne?
Disons que moi, je dirais que c'est réaliste, mais avec un côté un petit peu... avec le bon archétype du français à des moments, quoi. T'as certains personnages qui sont un peu bruts de décoffrage dans l'escadrille et ils ont la gueule de l'emploi, quoi. C'est
un petit côté un peu caricatural, caricatural,
mais qui passe bien, oui. Quoi. C'est honnêtement, moi, je suis dit, voilà, le graphisme, je suis attardé sur les avions parce que ça m'a beaucoup plu, oui. mais surtout le reste, c'est propre. Il y a pas, tu vois, j'ai pas eu de problème pour reconnaître des personnages. Ouais, vraiment, c'était... Il ne fait pas que des avions, ce monsieur.
Oui. Jérôme.
Non, alors c'est... Pour moi, ces scènes de bataille aérienne sont vraiment à couper le souffle. Ça, il y a peu de doute là-dessus. Faut savoir que le style de la bande dessinée d'aviation est un style à part entière.
Un éditeur spécialisé.
Exactement, il y a un éditeur spécialisé.
Non, c'est Proust ou Paquet, je ne sais jamais. Je te mélange, ça craint.
Et il y a un festival de BD spécialisé sur, qui s'appelle AéroBD à Istres, hein, tous les ans, qui est un festival très sympa. Donc c'est quand même vraiment un style qui a ses amateurs, autant en termes de dessinateurs qu'en termes de public. Donc là, on se fond dans ce style-là. Thierry Lamy est un admirateur depuis longtemps des As de la Première Guerre mondiale et de cette période-là. Donc on a un dessinateur qui touche sa bille au niveau de la reproduction et du réalisme des avions, et un scénariste qui aime cette période-là. Je crois qu'on a le duo gagnant. J'ai été un peu déçu par le tome 2, parce que je me demande bien vers quoi il va s'orienter dans le tome 3. En fait, il y a un événement qui est un peu cousu de fil blanc dans le tome 2, et si c'est trop cousu de fil blanc, je vais être déçu par le tome 3. Voilà. Mais je laisse le bénéfice du doute à Thierry de nous faire un revirement un revirement de situation pour nous surprendre et relancer l'action dans le tome 3 et faire en sorte que ce qu'on croyait être cousu de fil blanc dans le tome 2 nous surprenne en fait dans le tome 3. Exactement. Donc voilà. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a une vraie attente. Et ça, c'est un succès, ça.
T'attends la suite aussi ?
Ah oui, non, franchement, ça me faisait un petit peu des clins d'œil depuis longtemps, mais en fait, comme on me frustre un peu dans le Winnie Club.
On te frustre quand on s'entend
frustre ? Ouais, il y a des fois quand je dis « ce serait bien comme livre », on me fait « ouais, encore un livre historique de merde ».
Enfin, oui, sur celui-là, je t'ai jamais dit du mal, je crois. Ouais, t'as pas dû le demander, tu vois, en plus.
C'est vrai.
T'as pas dû le demander.
Quand même, pour préciser, quand même, ça se finit en 3 tomes.
D'accord, donc c'est une histoire qui sera
finie. C'est pour ça qu'on attend autant le tome 3, quoi, tu vois.
Et je crois qu'on va continuer sur une autre histoire en 3 tomes dont on va parler que des 2 premiers, hein, c'est ça ?
Exactement.
2 ans de vacances. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que je l'ai pas lu non plus.
Ouais. Mais qu'est-ce que tu fous ?
Là, j'anime, regardez, je mets le débat, ouais, je gère la technique, je fais un travail d'animateur. Un passe-plat.
2 ans de vacances, c'est sorti chez Glénat Jeunesse. C'est une adaptation d'une nouvelle de Jules Verne, qui s'appelle 2 ans de vacances. Hein. C'est très, très original.
Que j'ai dû lire, pour le coup, même.
Donc, sur le pitch, ça se passe au 19e siècle. Donc des écoliers partent en bateau et il y a un naufrage. Donc ils se retrouvent seuls survivants sur une île déserte, donc sur laquelle ils vont rester 2 ans. Hein, voilà, d'où le titre 2 ans de vacances. Dans le tome 1, en fait, c'est ce qui leur arrive un petit peu au début, la mise en place de ce groupe d'enfants qui a entre 10 et 14 ans, on va dire ça, et les relations, les rivalités un petit peu qui se passent entre eux, et la mise en place du... Arrêtez de toucher le micro.
C'est parce que tu parles pas dedans. Alors on essaie de te le rapprocher. Parle près du micro,
ça, discrètement, tu vois. Ça, voilà. Ça se voyait pas, voilà. En fait.
Et donc voilà, donc c'est ces rivalités qui vont se mettre en place, puisque même si on est sur un univers enfantin, avec comme héros uniquement des jeunes adolescents, on est là aussi sur des luttes de pouvoir comme chez les grands. Donc il y a essentiellement des Anglais, des enfants d'origine anglaise, mais aussi un Américain, un Noir qui évidemment va être la cible du racisme d'une partie des enfants, et 2 Français de mémoire, 2 frères.
Il aime bien les équipes cosmopolites, Jules Verne.
Oui, mais en même temps, c'est comme ça qu'il arrive à construire son intrigue, parce que finalement, voilà, des gamins qui se retrouvent échoués sur une île déserte, s'il n'y a pas un minimum d'enjeux derrière, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, dans le tome 1, on se retrouve face à ça avec des enfants qui vont devoir apprendre à se débrouiller, qui vont chercher un petit peu, qui vont explorer l'île déjà, qui vont apprendre à chasser, qui vont essayer de trouver une grotte où s'abriter et où passer l'hiver, parce qu'il va falloir qu'ils passent l'hiver. Et la mise en place de lutte d'influence.
Qui sera le chef ?
Qui sera le chef, exactement. Donc, on dévoilera pas grand-chose en disant que dans le tome 1, c'est l'Américain qui sera le chef, mais c'est pas parce que c'est un Américain. C'est parce que objectivement, il s'impose comme étant le chef. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le tome 2, il dit « moi, j'en ai marre, je laisse ma place ». Donc dans le tome 2, tout est reparti à zéro par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est tellement reparti à zéro qu'en fait, le groupe s'éclate. Donc là, il y a un nouvel événement dans le tome 2. C'est un autre bateau qui fait naufrage sur cette île, qui effectivement est vraiment une île déserte pour le coup, mais qui le devient de moins en moins dans le tome 2. Et dans ce nouveau naufrage, il y a des pirates et une jeune fille qui a été enlevée par les pirates et qui du coup, au moment du naufrage du bateau pirate, se retrouve elle aussi naufragée sur l'île. Maintenant, qu'en dire, qu'en penser ? Alors on est sur un dessin que je qualifierais de semi-réaliste. On n'est pas sur un dessin réaliste, sur un dessin semi-réaliste. Moi, ce qui...
C'est ligne claire, j'ai l'impression.
Ah, c'est ligne claire, ouais. Moi, ce qui me gêne dans ce dessin, je l'ai dit, je le redis parce que c'est une série que j'ai bien aimée. Ce qui me gêne juste dans ce dessin, c'est le nez. Le nez des personnages, parce que ils sont marquants. Voilà. On ne peut pas oublier les nez des personnages. Bon, après, faut que les personnages aient un nez, hein. Mais enfin, il y a peut-être différentes manières de le dessiner, et des façons un peu plus discrètes, qu'on l'oublie un peu de temps en temps. Là, on peut pas l'oublier.
C'est pour bien personnaliser ces personnages.
C'est vrai qu'en même temps, ça les personnalise bien. Après, au niveau du scénario, c'est du Jules Verne. Moi, je trouve que ça fonctionne admirablement bien. Donc, on se laisse prendre dans l'histoire, on est emporté par cette intrigue qui, somme toute, a rien d'extraordinaire, hein, mais on se laisse prendre, on se laisse emmener. Jules Verne est un admirable, un magnifique scénariste, et tout le monde le sait. Et l'adaptation est tout à fait à la hauteur de son illustre créateur.
Alors, Jules Verne pouvait être un peu bavard et très descriptif, surtout dès qu'il rentrait dans des trucs scientifiques. Est-ce que l'adaptation arrive à... passer au-delà de ça.
L'avantage de la bande dessinée, c'est qu'on n'a pas besoin de faire une description, on a un dessin. Donc,
il y a beaucoup d'explications scientifiques dans Jules Verne, souvent.
Là, il n'y a pas besoin d'explications scientifiques parce qu'on n'est pas sur un précurseur de la science-fiction comme peut l'être Jules Verne dans d'autres de ses romans. On est vraiment sur une histoire de naufragés. Donc, il n'y a rien de scientifique, il n'y a aucune explication scientifique particulière.
Thio.
Ouh. Pas follement emballé par le dessin, je vais faire simple parce que tu as quand même vachement bien résumé sur l'histoire. Pas follement emballé par le dessin, après l'histoire est efficace. Je ne connaissais pas la nouvelle de base de Jules Verne, mais voilà, c'est à suivre. Un Jules Verne, de toute façon, quand tu le lis, tu as toujours envie d'aller au bout, quoi. C'est le petit côté un peu feuilletonnant de l'histoire elle-même, mais ça marche. Voilà, les Jules Verne, ça a toujours fonctionné sur moi. Là, je dirai la suite quand tu l'auras. Ça m'a pas. Voilà.
Mais vous parlez du dessin. Moi, je vois les couvertures, je les trouve vachement bien. C'est du même tonneau dedans ou les couvertures sont juste vachement réussies ?
Ah non, c'est du même tonneau.
Non, c'est pareil.
Ah
d'accord. Donc,
c'est
vraiment une question de goût. C'est juste que.
C'est ça. Voilà. Totalement.
À part les nez, oui. Moi, j'aime bien le dessin. Hein.
Oui, d'accord. T'as un problème avec les nez. C'est...
Voilà, mais je vais faire une psychothérapie.
Edmond, oui. Es-tu là?
Bien, merci. Nous allons pouvoir passer à nos rubriques express. Pour rappel, pour Jérôme principalement, qui n'est pas habitué, il s'agit de rapidement resituer la bande dessinée pour faire un pitch rapide et de dire pourquoi, enfin si et pourquoi c'est toujours bien et pourquoi il faut le continuer. Et tu as 2 minutes. Et ouais, faut être balèze, mec. Bon courage. Tiens, mon raccourci a foiré.
Express. Promise, le tome 2, donc toujours de Thierry Lamy. C'est un peu. On a fait des émissions que sur les amis, en fait.
Oui, mais je crois que Thierry Lamy ne manque pas grand chose pour avoir fini tout ce qu'il a fait.
Pas loin, peut-être.
Truc sur les rails, là.
Ah, c'est ça. Les aventuriers du rail. Au secours, il a arrêté. Hein.
Oui, je sais.
Promise, tome 2, donc de Thierry Lamy et de Michael. Alors, pour refaire un petit peu l'histoire, on est dans une petite ville de l'Idaho, pendant la guerre de sécession, qui s'appelle Promise. Petite ville qui est à peu près paumée. Voilà, on va dire paumée. Il n'y a rien, il ne se passe rien. Les gens sont un peu dans la misère. Et arrive un prédicateur qui s'appelle donc Amos, qui en fait va redonner la foi aux gens. Il va réussir à les booster, à leur redonner l'envie de faire plein de choses. Mais sauf qu'en fait, ce gars Amos est en fait un démon qui en fait veut récupérer les âmes en fait du bled, hein, et donc
côté fantastique est beaucoup plus assumé dans le tome 2 là pour le coup.
Alors bah, il était déjà quand même assumé dans le tome
1. Il était plus sous-entendu dans le tome 1.
Ah bah non, parce que
on s'en doutait, mais disons que il y avait une part de doute sur les débuts du tome 1.
Tu rigoles ou quoi, poulet? La scène d'exorcisme où il prend le père de Rachel.
Ouais, mais ça m'avait semblé plus...
Que le mec, il est dans une zone magique, en fait, qu'il n'y a que lui qui voit, et qu'en fait, sa fille, la fille de...
Bon, vas-y, poursuis.
Enfin bon, bah, donc du coup, non, il y avait déjà un gros versant fantastique là, sur la première partie. Cette deuxième partie, donc Rachel, donc la petite, qui en fait déteste Amos totalement, parce qu'elle sait qu'a priori, c'est pas quelqu'un de bien, et elle sait déjà, je crois, qu'il a tué son père. Et en plus, comme il commence un peu à essayer de fricoter avec sa mère, ça la chauffe un peu plus.
C'est pas qu'il veut fricoter, c'est qu'il veut se la taper, c'est tout.
Ouais, ben pour l'instant, ils en sont qu'à fricoter. On n'en est pas encore à un point plus, quoi. Donc ça la gonfle un peu. Et dans ce deuxième tome, on va avoir justement donc la montée en puissance d'Amos, la montée de son emprise sur la ville, avec vraiment le côté prédicateur, le côté qui monte la foule, quoi. Et les différents personnages du village qui vont essayer de dire que bah non, en fait, attendez, on n'est pas comme ça, nous on fait pas ça. Et finalement, Amos vraiment augmente son emprise sur le village. On monte en puissance au niveau de l'histoire. Rachel, donc la petite fille, elle a un allié qui était donc l'esprit d'un indien qui est mort, d'un sorcier indien qui était mort et qui l'aide. Et on a donc ce côté réaliste avec les discussions de village, ce côté un petit peu fantastique avec les démons, les esprits des Indiens. Voilà, franchement, je me dis que le tome 3, ça va être vraiment une grosse montée en puissance.
Ça va être une tuerie. Donc, à continuer,
ouais.
À poursuivre.
Tu veux dire je sais pas pourquoi t'as pas chroniqué le tome 3 du coup, puisque
parce qu'on l'a pas encore.
Alors parce qu'en fait, je rencontre Thierry Lamy une fois par an. Chaque fois, je lui achète un tome et
mais je l'aurais prêté moi le tome 3.
Oui, mais je savais mon plaisir. C'est comme ça.
Moi aussi, joli.
Jim Hawkins, tome 2.
Alors là, pour le coup, il n'y a pas de tome 3 sorti encore.
Donc on n'est pas en retard. Ah.
Là, on n'est pas en retard. Bon, enfin, ça fait un moment que le tome 2 est sorti, mais donc Jim Hawkins, c'est de façon assez peu surprenante l'histoire de l'île mystérieuse revue et visitée.
L'île au trésor.
L'île au trésor. J'ai dit quoi, l'île mystérieuse ? L'île au trésor revue et visitée à la mode anthropomorphique. Donc, le parallèle vaut ce qu'il vaut. Mais on est sur du Black Sad à l'île au trésor. Moi, j'aime beaucoup l'anthropomorphisme. J'aime beaucoup le dessin de Juan Guarnino dans Black Sad. Et j'aime autant le dessin de... J'arrive plus à lire son nom.
Parce que c'est écrit en tout petit.
C'est écrit en tout petit.
Voilà, je ne l'ai pas en tête, là. C'est écrit en tout petit pour moi aussi. Bon. Pajra, un truc comme ça.
D'accord.
Vastra. Attends, okay. je vais vérifier. Attends, j'ai eu une intuition. On va vérifier si mon intuition est bonne. Vas-y, continue.
Si tu veux. Et donc voilà. Donc du coup, on est bien sûr sur un anthropomorphisme assumé, c'est-à-dire que la grosse brute est un morse, le filou est un vautour aveugle en plus.
Sébastien Vastra.
Voilà.
Sébastien Vastra. Voilà. Et hey bravo. Et donc, on est sur cette histoire revue et visitée avec vraiment la grande force. Il y a deux grandes forces dans cet album. La première grande force, c'est que le scénario, on le connaît, c'est un scénario qui tient la route, c'est un scénario qui nous emporte et qu'on a envie de suivre. Et la deuxième grande force, c'est que franchement, là, pour le coup, pour moi, le dessin, c'est un dessin où on fait « Waouh !» Voilà. C'est bien ?
Ok, oui, non, c'est très bien. C'est... Donc, à suivre, on attend la suite.
Ouais, clairement, ça suit.
Ça vaut vraiment le coup. Donc, Jim Hawkins, le tome 2, on reviendra sans doute plus longuement sur les tomes à venir s'il se passe des choses marquantes comparées au premier tome, on va dire. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir suivis. Merci aux quelques survivants du live. Ça nous fait plaisir que vous soyez encore là. Parce que c'est vrai qu'il se fait tard, qu'on a tendance à vieillir, qu'il est quand même moins de minuit, là. On est sûr quand même, hein, comparé à d'habitude, faut croire.
Mais c'est parce que tu n'es pas là.
Jérôme a essayé de nous ralentir un peu sur la deuxième émission, mais senti, ça va quand même un peu plus vite, quoi. Non, il y a du progrès.
Bon, les gars, si vous voulez faire que vos émissions à deux, vous le dites, hein, la prochaine fois, hein, pas de
problème. Non, mais nous, on accueille tout le monde.
Et après, on dit que c'est moi qui me vexe.
Mais faut juste admettre les défauts des autres, à un moment donné, et les accepter. Et nous, on accepte on vous accepte avec vos défauts. C'est comme ça. On
et vos qualités aussi.
Et vos qualités.
Ouais. Ce qu'il y a, c'est que nous, on n'a pas le choix de faire une émission sans toi, c'est ça.
Ouais, je sais, c'est ça.
C'est pour ça qu'on l'appelle le dictateur.
Le dictateur, exactement. Je porte bien mon surnom. Merci. Ah, on a entendu Evelyne rire, ça y est. On a entendu sa voix. Evelyne, notre spectatrice.
Non, mais dites-moi, moi, je pense que d'ici 3 ou 4 émissions.
On va rester à l'heure.
D'ici 3 ou 4 ans.
Bah, là, il n'y a pas beaucoup d'alcool ce soir. Il va falloir qu'on fasse un effort.
Et ouais, mais en fait, non, parce que le rhum est en train de. Le rhum orangé est en train de maturer.
Ouais, c'est long, mais ça vaut le coup en général.
Oui, mais il faut attendre un peu, parce que là, ça fait que 2 semaines qu'il est dedans.
Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça s'est bien passé sur Twitch pour ceux qui étaient présents. On va essayer de, je pense, continuer. J'ai bien aimé ça. Je mettrai sans doute les vidéos sur YouTube si je trouve comment faut faire. Ouais, mais apparemment il y a une option qui fait ça en automatique. Ça a l'air bien foutu. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Petite news vite fait, cette année on fera pas d'émission spéciale des Calanques et des Bulles. Malheureusement, la date a été déplacée et nous ne pourrons pas nous y rendre.
Tout le monde part en vacances ce week-end-là.
Voilà. Donc on est super dégoûté et désolé. Je crois que c'est le moment de dire au revoir, de vous demander de nous soutenir, de parler de nous suivre sur Twitch, parce qu'apparemment on se suit, on se met des notifications. Mettez des notifications pour être au courant du prochain live, qui aura sans doute lieu le dernier jeudi du mois prochain. C'est à peu près comme ça qu'on fonctionne. Et on enregistrera 2 émissions, on espère bientôt refaire peut-être des splashs, n'est-ce pas, Tizak? Tizak Thio.
Tizak, bah écoute, tu demanderas Tizak.
Ouais. Ah, on lui est responsable.
Qui risque de commencer à être de plus en plus pris quand même, hein.
Oui, il va être plus pris. Ouais. Non, oui, non, les splash, il faut que je me remette à appeler des gens pour avoir des invités.
C'est du taf. Non, mais j'avoue, c'est du taf d'organiser des splash. C'est pour ça que je t'ai refilé le boulot. Merci encore à vous. On se retrouve très bientôt et à ciao.
Ciao.
Ciao, ciao. Bientôt.
Ciao, ciao.
Elle a parlé.